Ma petite fille, répétait Anya. Ma petite fille, reprenait Anton. Leurs voix se greffaient l'une à l'autre. Il accourt, il vient, il arrive. Il sera bientôt auprès de toi. Marie avait repris confiance, la douleur diminuée. Il lui semblait flotter sur le dos, le long d'une rivière, dans une douce attente. Elle répéta profondément. Anton sentait la fin venir. Lui et sa femme tournaient cependant leur regard vers la rue qui remontait en légère pente. Absurdement, déraisonnablement, comme si leur parole à elle seule finirait par métamorphoser la réalité. Vite, dramatiquement vide, la rue les défiait. Vacante, solitaire, nue, elle étendait devant leurs yeux son espace désert. L'apparence de cette rue abandonnée, la certitude d'avoir vu disparaître Steph, aurait dû tarir tout espoir. Anya revoyait l'autobus, le chandail bleu, l'engloutissement dans le car. La main de son compagnon saisit la sienne. « À toi, continue !» lui souffla-t-elle. Elle se sentait incapable de formuler une seule parole. Il n'insista pas et se penchant au-dessus de la jeune femme, il lui glissa à l'oreille. « Rien n'est beau comme l'amour, ma petite fille. J'ai vécu longtemps, je le sais. Tu peux me croire. » Ces mots-là, au moins, étaient véridiques. Soudain, Anya se redressa et cria vers la rue cruellement déserte. « Il viendra, je le verrai la première et tu le sauras, petite, il viendra. » Après avoir sauté de l'autobus en marche, Steph eut la chance d'atterrir sur un talus sablonneux. Son corps, roulé en boule, avait à peine subi le choc. C'était un athlète aux réflexes rapides, champion de saut à la perche il y a quelques années. Dès qu'il toucha terre, Steph se remit debout, palpa ses épaules, son dos, ses reins, tout fonctionnait. Il jeta un dernier coup d'œil sur l'autocar vert à la peinture écaillée qui s'éloignait très vite. Lui tournant le dos, il reprit sa marche en sens inverse. À sa montre, il était 14 heures. Il se dirigea à grands pas vers le quartier où habitait Marie. Ce quartier était sans doute moins tranquille que ce qu'il avait supposé. Peut-être avait-elle été empêchée de le quitter. Pourquoi n'y avait-elle pas songé plus tôt? Sa déception l'avait aveuglé. Souvent irascible, il se laissait surprendre par ses colères. « Parfois, tu me fais peur, » disait Marie. « Il ne lui ferait plus jamais peur, jamais plus. » Il lui fallait une trentaine de minutes pour rebrousser chemin, pour se frayer passage au milieu de cette foule compacte qui remontait le pont en direction opposée. Plus loin, il s'engagerait dans la grande rue en légère pente qui descend vers l'immeuble où logeait Marie. Il en connaissait l'adresse. Au début de son séjour, il avait fréquenté ce quartier où se trouvait un centre commercial et une importante librairie. Peut-être qu'il croiserait Marie en chemin. Presque au même moment, Gorgio atteignait la sortie du pont, espérant qu'on lui fournirait des renseignements concernant l'ambulance. Il s'étonnait de l'énergie, de l'obstination qu'il déployait pour venir au secours de la jeune femme. En quoi cette dernière le concernait-il? Il ne comprenait pas son malaise. Était-ce d'avoir vu de si près ce jeune visage si proche de la fin? Était-ce le rejet de la mort, le refus de la donner? Était-ce cette proximité soudaine? Les aviateurs qui déversent leurs bombes à des kilomètres au-dessus des villes et se retirent, les fabricants de voitures piégées, les manipulateurs de canons à longue portée n'atteignent que des anonymes. Leur nombre gomme l'individu. Gorgio n'avait pas connu de combat rapproché, mais il avait feuilleté dans la bibliothèque de l'écrivain un livre fait de lettres de poilus dans la guerre de 1914-1918. Leurs révélations étaient atroces. La peur, l'horreur, le face-à-face, l'ennemi que l'on transperce à la baïonnette pour sauver sa propre peau. D'horrifiants souvenirs. Ici, la sauvagerie s'était déchaînée. Gorgio n'en avait jamais été le témoin oculaire. Il avait pourtant entendu parler d'extermination en masse, de blessés traînés derrière des voitures, de tueries à la hache, de viols, d'écartèlements. Ces descriptions, ces récits se déroulaient comme sur un écran, sans véritable lien avec la réalité. Il se demanda soudain s'il aurait pu tuer de sang-froid, plonger un glaive dans la chair d'un autre ou lui faire sauter la cervelle d'une balle. Il ne s'en croyait pas capable. Il songea à son père, à son regard méprisant, à leur querelle. Parfois, il avait souhaité sa mort, mais aurait-il pu le tuer? Le souvenir de la jeune femme étendue, haletante, livide, effaça d'autres pensées. Gorgio pressa le pas. « J'aime cet homme que j'ai failli quitter pour toujours, » se disait Anya. L'absurdité ou la signification de l'existence s'affrontaient sans cesse. Leurs 3 enfants s'étaient expatriés. Leurs 5 petits-enfants étaient devenus des adultes. Ils se voyaient peu, mais elle savait les liens libres et tendres qui les unissaient. Anya et Anton avaient perdu leurs propres parents à tous les âges. Souvent trop jeunes, parfois si vieux, ils éprouvaient la crainte de peser sur les leurs, la peur de dépendre. La sortie était imminente, ils se demandaient comment la mort se présenterait. S'étant connus à 16 ans, en leur chair savoureuse, en leur visage ensoleillé et lisse, ils ne se voyaient pas vieillir, ou bien cela n'importait plus. Le passé pénétrait le présent, écartant les poussières et l'usure. Ils s'exprimaient souvent avec des mots d'adolescents, confrontaient leur nudité sans gêne aucune. Ils étaient frères et plus que frères, amants et plus qu'amants. Leurs regards entremêlaient tous leurs âges. Malgré quelques résistances, quelques impatiences, ils s'acceptaient, ils s'accordaient, s'émerveillant d'être encore là et de s'être retrouvés. Le privilège d'une longue vie leur avait accordé le temps de s'aimer, de se séparer, de s'aimer encore. Ils n'imaginaient plus une existence qui les priverait l'un de l'autre. Une vague de froid s'empara de la jeune femme, elle frissonna malgré la chaleur. Anya s'empressa d'ouvrir sa valise et d'en tirer une large écharpe en laine dont elle la recouvrit. Elle souffla, réchauffant de son haleine chaude les joues livides, les paupières closes. Elle prit enfin les mains tremblantes et glacées entre les siennes et les frotta lentement. Les rôles auraient dû s'inverser. N'était-ce pas plutôt à la vieillesse de s'éteindre ? Elle éprouva un malaise à l'idée d'être encore vivante et en suffisante santé, tandis que d'autres, tellement d'autres, disparaissaient à la fleur de l'âge. Sa trousse de médecin ne lui servait plus à rien. Anton sentait la fin approcher et l'impossibilité de venir en aide à la jeune femme. Si Anya avait été là, étendue sur le sol à la place de l'autre, elle aurait eu Anton auprès d'elle. Et le départ aurait été accepté. Pour Marie, tout était irrémédiablement gâché. On ne lui offrait qu'illusion en insistant sur l'arrivée de Steph, on trahissait la vérité, on inventait un mirage. C'était pourtant cela qu'il fallait faire, Anya en était convaincue. Elle s'enfonçait de plus en plus dans ce mensonge, dans cette fiction, qu'allégeaient les dernières minutes que Marie avait à vivre. Sur l'autre rive, qu'est-ce qui nous attend ? Anya se sentait incapable de l'imaginer. Elle ne connaissait et ne reconnaissait que ce monde-ci. Mais les humains ont tellement soif d'un ailleurs, tellement le goût de l'indicible, tellement besoin d'absolu. Refuser de disparaître conduisait vers les religions, vers la création, vers l'art, vers l'étrange, vers l'insolite, vers le terrifiant aussi. Et l'amour dans tout cela, cet amour qui n'est peut-être que le désir de sortir de sa peau, de rejoindre l'autre, de s'ouvrir à de vastes horizons, d'approfondir le mystère au fond de chacun. Pourquoi, dans quel but, cette quête sans réponse se trouvait-elle au cœur de l'humanité ? Résurrection, vie éternelle, jardin paradisiaque, Anya refusait d'y croire. Quant au symbole de la goutte d'eau, rejoignant en fin de course l'océan primordial, cette vision ne la satisfaisait pas. Que fait-on de cette mémoire qui nous construit ? Anton avait des vues plus mystiques. Passionné par Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, le poète Rumi, il ne rejetait ni l'extase ni l'illumination. Elle se tourna vers lui. « Demain, où serons-nous, mon amour ?» Il se pencha pour l'embrasser. Lui non plus n'avait pas de réponse. Elle se remit à chantonner. « Just as long as you stand by me, stand by me, stand by me. There is no fear, my love. » La traversée du pont fut plus ardue, plus longue que prévue. Steph dut faire face à une population hâve, épuisée, portant des baluchons, des valises, poussant des brouettes, défilant par vagues, espérant trouver de l'autre côté des véhicules qui les éloigneraient des zones de combat. Les réfugiés s'entremêlaient, se disloquaient, se rassemblaient, se repoussaient. Ébranlés par la peur et leur récente souffrance, ceux-ci ressemblaient à une tribu de fantômes livides et pathétiques en complète déroute. Engagé dans le chemin inverse de celui qu'empruntait la cohue, Steph était sans cesse bousculé, retardé, retenu par cette foule apeurée. Parfois, une main s'accrochait à son bras, d'autres fois un corps lui barrait passage. Des voix anxieuses le questionnaient sur les raisons de son retour. « Où vas-tu ? Tu prends la mauvaise direction ? Qu'y a-t-il de l'autre côté qui t'a fait fuir ? Dis-le-nous. » Il repoussait les mains qui s'agrippaient à lui et tentait de les rassurer. « Votre direction est la bonne. J'ai perdu ma femme. Je retourne la chercher. Laissez-moi passer. » La foule s'écartait, docile, compatissante. « Bonne chance, pourvu que tu la retrouves. » Steph s'extirpait de cette masse compacte qui n'avait pour but que de s'éloigner, fuir le plus loin possible. Il s'arrachait non sans mal de cette foule composée de visages hagards, de corps en perdition. Il cherchait aussi à se dégager de leur emprise et du sentiment de pitié qui l'envahissait. Il reprit sa route d'un pas décidé, de plus en plus convaincu que Marie l'attendait chez elle ou bien au bas de son immeuble. Elle avait sans doute fait partie de ces rares obstinés qui croyaient à la fin imminente des combats et qui avaient décidé de demeurer sur place. Comment avait-il pu douter d'elle et pourquoi ?